absolument infranchissable. Cela devient complètement impossible. Un individu qui est replié sur lui-même parce qu'il a peur de la vie ou parce qu'il ne veut plus rencontrer de problèmes ne peut pas aller vers Dieu. Et s'il croit aller vers Dieu en faisant une prière et en demandant plus particulièrement par cette prière que Dieu sorte l'individu de ses problèmes, il ne se passera rien. Il faut sortir à l'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que vous devez devenir des individus extravertis. Pas du tout. Cela ne veut pas dire que vos énergies doivent aller tous azimuts, s'occuper uniquement de ce qu'il y a dehors. Pas du tout. Cela veut dire que vous devez marcher dans la vie. Aller à l'extérieur, cela veut dire marcher dans la vie. Lève-toi et marche. Si l'on pense que Jésus disait « lève-toi et marche » uniquement aux paralytiques qui retrouvaient les jambes, c'est faux. Car en fait, Jésus avait autre chose à faire que de soigner les paralytiques. Ce qui ne veut pas dire que les paralytiques ne sont pas à soigner. Mais je dis qu'il y a des gens qui sont encore plus paralysés que les paralytiques. Ce sont des paralysés dans la conscience. Ce sont des gens qui ne sont pas simplement sur un fauteuil roulant, mais qui sont sur une vie qui s'est arrêtée de tourner. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que cela veut dire? On pense toujours aux diverses étapes de la mission de Jésus comme étant tout simplement le déroulement de la mission de Jésus. Mais comme je l'ai déjà dit, je vais le répéter ce soir, lorsque l'on observe la description des missions de grands personnages comme Jésus ou d'autres personnages de cette envergure-là, on s'aperçoit que chaque événement n'a pas simplement existé physiquement, mais représente en plus un symbole de l'âme. Un symbole de la vie de l'âme, du mouvement de l'âme ou de l'initiation de l'âme. Il y a donc plusieurs façons de lire, non seulement la Bible, mais plus particulièrement la description de la mission de Jésus. Si vous lisez simplement ce qu'a fait Jésus, bien vous direz... C'est très joli. Dommage que Jésus ne soit pas là de nos jours. Il continuerait le même travail. Il faut qu'il revienne. Et alors, au lieu de regarder ce qu'il peut faire, l'homme commence à émettre des projections et commence à réclamer à un Dieu ou à un Messie de venir le sauver. Ce n'est pas la bonne façon de lire ni la Bible, ni la description de la vie de Jésus. Il faut lire la description des événements comme étant les symboles dont Jésus parle pour délivrer la conscience humaine de sa condition humaine inférieure. Lorsqu'il croise des paralytiques, ce n'est pas simplement pour aller soigner des paralytiques. Il va aussi vers toutes ces personnes qui ont arrêté de vivre, qui n'osent même plus mettre le nez dehors parce qu'elles ne veulent pas rencontrer de problèmes à l'extérieur. Je reste chez moi et je reste avec ma famille. Et j'élève mes enfants en les avertissant de tout le mal qu'il y a dehors. Et je dis à mon enfant, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais tu feras ceci et tu feras cela. Comme cela, tu seras protégé, tu ne risqueras rien. Choisis toujours ce qui te semble être le plus de sécurité. Ne choisis jamais ce qui est un peu de l'aventure ou qui représente un risque. Sois toujours intelligent. Et si tu veux être intelligent, pense à ta sécurité, mon enfant. Et de cette façon-là, les parents créent des enfants que l'on n'a même pas besoin de tuer parce qu'ils sont déjà morts. Ils ne vivront jamais, ces enfants-là. Toute leur vie, ils diront « Mais si je fais ça, je risque cela. J'ai peur, donc je ne fais rien. » Si je quitte tel emploi, je risque de ne pas en trouver un autre. même si cet autre correspondrait mieux à ma vie, à ma destinée. Donc je ne bouge pas. Et mon père, qui est de bon conseil, me dit la même chose. Et ma mère, par sa vie, a prouvé qu'il n'y avait qu'en agissant comme cela qu'on pouvait survivre. Lorsque l'individu pense de la sorte, non seulement il n'est pas en état de vie, mais il n'est même pas en état de survie. Il est tout simplement en état d'anéantissement. Pour qu'un individu soit vibrant, heureux, épanoui, et que surtout pour qu'il puisse véritablement marcher sur le chemin de la spiritualité, il faut au contraire que cet individu soit un être qui ose. Quand Jésus donc soignait les paralytiques, il ne soignait pas que les paralytiques, mais il essayait aussi d'extirper tous les individus dont la conscience était satellisée autour d'un certain anéantissement et autour de la peur. Lève-toi et marche. Admettons que maintenant tu te mettes debout et que tu aies envie de marcher. La question qui est logique et que tu pourrais me poser, ce serait: d'accord grand frère, je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais sortir ma force, je vais aller dans la vie, je vais marcher, mais je vais marcher vers où? Vers qui? Pour qui? Et comment je vais marcher? Car en fait, ce qui positionne de nombreux individus à s'asseoir systématiquement, à ne pas vouloir se lancer dans la vie, c'est avant tout parce qu'ils ne savent pas où ils doivent marcher, ce qu'est le fait de marcher, pour qui ils marchent et vers quoi ils marchent. C'est pourquoi quelque part, lorsque l'on veut vivre ou expliquer la vie ou préparer un homme à la vie, quelque part il est absolument indispensable d'en revenir à des bases spirituelles. La grande scission vie quotidienne et vie spirituelle est une scission qui ne fait qu'engendrer des morts sur la terre, des morts vivants, mais des morts quand même. Une société ne peut pas espérer développer des citoyens pleins de vie si elle ne change pas fondamentalement les bases de la vie, les mouvements de la vie. La société actuelle ne promet que quoi ? Travailler pour pouvoir manger, pour pouvoir se permettre certains plaisirs et se mettre à l'abri sous le toit d'une maison. Lorsque l'on vit uniquement dans ce paramètre, automatiquement, l'individu s'aperçoit que dans le cadre professionnel, il y a de nombreuses ambitions, des compétitions, qu'il y a de nombreux obstacles. Donc, c'est une source de traumatisme, de complexe. Et il dit non. Lorsqu'il veut un toit pour se protéger, il s'aperçoit qu'il doit gagner de l'argent et que pour gagner de l'argent, il faut qu'il replonge dans le professionnel. Et à ce moment-là, il dit non. Si bien qu'au fur et à mesure de dire non à une multitude de choses, l'individu se retrouve exclu de la société. Ce qu'il faut donc faire à ce moment-là, ce n'est pas simplement essayer de retrouver goût à la société, essayer d'y trouver de bons côtés et de faire quand même malgré tout, et en attendant avec espoir qu'enfin le nouveau monde arrive et qu'il va balayer l'ancien monde et que tout ira mieux avec un nouveau messie et de nouveaux dogmes et de nouvelles lois. Il ne faut pas simplement voir les choses de la sorte. Il faut se donner une nouvelle vision de la vie elle-même. Donc, de la société tout entière. Si l'individu ne vit la société que pour les termes que je viens d'expliquer, il va nécessairement se retrancher et devenir marginal, que ce soit au nom de Dieu ou que ce soit tout simplement par refus de la société. Cependant, si l'on a une vision holistique de la vie, si l'on a une vision initiatique de la vie, non seulement l'individu va retrouver une très forte envie de vivre, mais en plus, il va se trouver les prétextes pour exister. Ce qui fait que sa profession, ce ne sera plus simplement l'endroit où, bêtement, il va gagner son pain. La profession sera en même temps l'endroit, grâce aux frictions que cet endroit permet avec des collègues, l'endroit où l'individu va développer des qualités ou affirmer sa force. Rien n'est fait pour que tu sois submergé par l'obstacle, je te le dis. La société, la vie, toutes ces choses-là ne sont pas organisées pour que tu sois submergé par un tas de contraires. Des contraires qui seraient contraires à Dieu. Tout est un. Ta vie, la vie de Dieu, ta vie professionnelle, ta vie affective, ta vie humaine. Tout est Dieu et tout est un. Il n'y a pas toi, ton âme, vivant sa spiritualité d'un côté, et ensuite toi, ta spiritualité qui essaye petit à petit de s'incorporer dans la personnalité. Les choses ne sont pas séparées. Il n'y a aucune séparation. Et c'est en voulant croire qu'existent des séparations entre Dieu et la matière, entre Dieu et la société, entre la spiritualité et la vie traditionnelle, c'est en croyant à cette séparativité que l'homme s'achemine vers l'anéantissement, vers le manque de goût pour la vie, vers le manque de force et vers l'impossibilité de déboucher un jour dans l'initiation. Il n'y a pas 36 manières de devenir un initié. Que fait un initié pour travailler dans le droit chemin? Un initié commence par apprendre les lois de base de l'univers. Car pour savoir où l'on doit marcher, de quel pas on doit marcher et vers qui l'on marche, il faut étudier les lois de base de l'univers. Et qu'enseignent les lois de base de l'univers? Les lois de base disent que l'homme est une incarnation divine. Incarnation divine. Il n'y a donc pas Dieu d'un côté et le pauvre petit homme sur la terre qui essaye de plaire à Dieu et qui espère un jour découvrir le paradis divin. Il y a un Dieu qui descend et qui s'incarne. D'où, pour ce Dieu, le droit absolu de vivre l'entier de sa vie. Le droit absolu d'aller par toutes sortes de mouvements dans la vie. Si Dieu a mis au point suffisamment les choses du cosmos pour préparer son incarnation, il faut que l'incarnation et que la vie aient lieu. Donc l'homme qui est là, au bout, qui représente l'aspect psychologie de la conscience divine. Donc cette petite psychologie qui est là au bout et qui se permet de dire mais non, il y a Dieu en haut et puis moi l'homme en bas. Dieu est au ciel et je dois le prier mais il ne fera rien pour moi. Je l'ai déjà tant prié, il n'a jamais rien fait. Lorsqu'il y a donc dans cette grande vérité que je viens de citer, un Dieu incarné, une petite psychologie qui se promène là au milieu du champ et qui dit « Non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu ne pourra pas. Dieu est trop loin. Non, moi, je ne suis qu'un homme. » Cette psychologie, bien même qu'elle soit petite, est comme le grain de sable qui fait arrêter toute l'horloge et toute l'horlogerie cosmique. Et qu'est-ce qui se passe si l'horloge s'arrête? Le temps s'arrête, la vie s'arrête, le mouvement n'a plus lieu et l'individu se sent comme une coque vide et un mal existentiel se colle en lui à ce moment-là. Pour évacuer le mal existentiel, le mal vivre, le mal être, pour évacuer des douleurs telles que croire que Dieu est en haut, très loin, et qu'il n'entend personne. Pour évacuer les douleurs, les crises d'abandon, comme ont souvent les disciples, ce qu'ils éprouvent lorsqu'ils prient un maître et que le maître ne vient pas. parce qu'il sait que le maître est là-haut à Shambhala et qu'il a autre chose à faire que de regarder les hommes, pour éviter toutes ces petites douleurs, il suffit que l'homme comprenne une bonne fois pour toutes qu'il n'est pas simplement capable d'être un disciple, qu'il n'est pas simplement capable un jour d'être un initié, puis plus tard un maître. Il faut qu'il admette une bonne fois pour toutes, ici et maintenant, en un éclair, en une seconde, que non seulement il peut être un disciple, un initié, un maître, mais qu'avant tout il est un Dieu en incarnation. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre. Je ne veux ni vous parler de Jupiter ou de Saturne ou des lois qui animent la rotation de la Terre, puis plus tard la dissolution de la Terre. Cela ne sert à rien à votre existence, car tous ces objets n'existent que parce que vous, vous allez être plus tard le roi. Étudier par exemple une planète ne sert absolument à rien parce que très tôt vous allez tout savoir sur la planète puisque vous allez être roi d'une planète, roi d'une sphère, créateur d'un monde. Il est donc beaucoup plus important que ici et maintenant, vous cessiez éventuellement d'aller chercher la résolution de tous les grands mystères cosmiques et que vous arriviez à résoudre le plus grand des mystères, qui est vous-même. En faisant sans cesse des projections, l'homme regarde toujours les mystères qui sont hors de lui. Et il se demande pourquoi l'escargot a deux antennes. Et il se demande pourquoi est-ce que la mer connaît des marées. Et il se demande pourquoi les étoiles sont si lointaines. Quelle est la nature du soleil? Combien est-ce qu'il y a de plumes sur les ailes des anges? L'homme se demande toujours pourquoi, 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 mais à propos de ce qui est extérieur à lui. Résout le plus grand des mystères, je te le dis. Et le plus grand des mystères, ce n'est pas de savoir quelle est la plus grande hiérarchie archangélique et quelle hiérarchie archangélique a présidé à la formation de la Terre ou des océans, ou de savoir si le logos planétaire vient vraiment de Vénus ou d'ailleurs, et à quelle date précise il en repartira, ne serait-ce que pour lui dire au revoir avec le mouchoir. Tout ceci te sera expliqué de surcroît si tu résous le premier et le plus grand des mystères que tu ne vois même pas parce que tu ne penses pas te regarder, parce que toi, tu ne t'aimes pas. C'est pour cela que l'homme ne se regarde pas. C'est pour cela qu'il est incapable de se poser la question vis-à-vis de lui-même. Qui suis-je? Véritablement, profondément. Parce qu'il a besoin, pour se poser cette question, il a besoin d'avoir une certaine paix vis-à-vis de lui-même, un certain amour vis-à-vis de lui-même. Il est obligé de se concevoir comme étant non pas le centre de l'univers, certes pas, mais comme étant l'objet de la quête. Donc tout entier, son comportement psychologique doit changer. Celui qui ne s'aime pas et qui donc va désespérément chercher l'amour ailleurs, de la part des autres, et qui va chercher aussi tous les mystères ailleurs, dehors, dans les étoiles, celui-là ne comprendra non seulement jamais le mystère des étoiles, mais vivra toute sa vie comme un malheureux. Et vous avez comme cela sur la terre des milliers de disciples qui sont malheureux comme des pierres mortes et qui étudient pourtant des livres à longueur de journée et à longueur de nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils se disent, mais c'est parce que peut-être je ne suis qu'un petit disciple après tout. Je suis peut-être né avec un gros mental, alors je peux contempler tous ces livres, je peux imaginer des lois extraordinaires, mais finalement je ne suis qu'un petit disciple. Le problème, ce n'est pas que tu es un petit disciple, car cela, il n'y a que toi qui le dis. Le problème, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Le problème, c'est que tu ne fais pas une pause dans tes énergies et dans ton oscillation pour te contempler toi-même et comprendre que tu es l'objet de la quête. Comment doit-on agir lorsque l'on comprend que l'on est l'objet de la quête? Eh bien, l'on doit profondément penser à se purifier, à s'aligner et à rentrer les énergies à l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire que, à ce moment-là, se déclenche une vie contraire à celle que j'ai décrite tout à l'heure, où il s'agit de se lever et de marcher. En même temps que tu lèves des énergies en toi pour marcher dans la vie, conquérir la compréhension, conquérir les obstacles, comme tout est paradoxe, comme je l'ai dit si souvent, à l'intérieur, tu dois faire basculer un nombre égal d'énergies pour que ces énergies fortifient ton feu intérieur. Et c'est là où la vie devient un petit peu compliquée pour le disciple débutant. Car comme je dis si souvent, tout est paradoxe. Pour celui qui veut véritablement équilibrer sa vie et avoir une évolution correcte, pour celui-là, il va s'agir de concilier les paradoxes. En même temps que tu dois te lever et marcher, à l'intérieur, tu dois t'asseoir et te taire. En même temps que tu dois chercher la solution de tous les mystères à l'extérieur et que tu dois t'instruire, afin de développer ton discernement, afin de développer tes archétypes mentaux, tu dois en même temps tout abandonner ce que tu as lu, ce que tu sais, pour uniquement te poser la vraie question. Qui es-tu? Qui suis-je? C'est ce que la voix du Graal demande au chevalier qui s'approche par la vision. Et il te faut pouvoir répondre à cette question. Je vais te dire maintenant comment tu vas répondre à cette question. Car il ne s'agit pas simplement de rencontrer en soi l'endroit où la voix divine te pose la question et de lui dire « Mais tu sais, j'ai appris quand même mes classiques en spiritualité et je peux te répondre tout de suite, je suis Dieu. » Si l'on répond animé de la seule connaissance mentale, l'on sentira en soi-même l'énergie de la voix qui basculera dans un gouffre et l'on comprendra que la chose a disparu, qu'il n'y a pas eu de communion ni de communication. Comment faire donc pour déclencher en toi-même la conviction non seulement que tu es Dieu, mais trouver en toi-même cet espace spirituel où la question te sera posée et où tu y répondras et à l'endroit où tu vas répondre, à l'instant où tu vas répondre, si tu réponds avec ton âme, tu auras l'expérience extraordinaire de pouvoir contempler ton âme. Alors que si tu ne réponds pas avec la conscience qu'il faut, ta voix basculera dans un gouffre et tu ne verras pas ton âme. Comment voir ton âme? Si tu le veux, bien entendu. Comment voir ton âme? C'est simple. Tu t'assois tranquillement, à la façon indienne ou à la façon européenne, peu importe, du moment que tu es confortable et que ton corps te laisse tranquille. Tu t'assois confortablement et tu laisses complètement aller ton corps. Tu laisses complètement aller ton esprit, sans chercher à méditer, simplement te relaxer, te relâcher complètement. Et tu médites à ce moment-là sur ce que je t'ai dit, que tu es l'objet de la quête, que c'est toi l'endroit du mystère. Il faut que consciemment tu acceptes cette chose. Et tu ne peux l'accepter que si tu y médites profondément dessus. Qu'est-ce que j'entends par méditer ? J'entends tout simplement prendre la phrase que je t'ai prononcée comme étant un paysage à contempler, exactement comme tu essaierais de contempler une image ou une couleur. Je suis l'endroit du mystère, je suis l'objet de la quête. Et contemple cette phrase, cette idée. Contemple cette idée comme un paysage. Et à ce moment-là, tu verras qu'en toi va se déclencher la compréhension non seulement du cœur de la phrase, mais en plus du mystère que toi-même tu détiens à l'intérieur. Lorsque tu auras, par ce fait-là, été pleinement convaincu, car c'est cela que tu dois obtenir, lorsque tu vas méditer sur l'idée, lorsque tu vas contempler l'idée profondément que tu es l'endroit du mystère, c'est pour obtenir la conviction que tu es l'endroit du mystère. Et pas simplement la connaissance mentale, la conviction intérieure. Et lorsque tu auras éprouvé cette conviction, alors tu peux commencer à méditer. De quelle manière ? Tu vas te relier à ton âme, car dès lors, l'âme ne sera plus pour toi une simple hypothèse ou quelque chose qui éventuellement plane au-dessus de toi et que tu n'as pas le bonheur de connaître. Ce feu que tu auras senti une fois par l'ardeur de la conviction, ce feu-là, tu sauras que c'est le feu de l'âme. Et ayant senti son énergie, il te sera donc facile de t'y remettre pendant la méditation. Comment diriger maintenant ta méditation ? Tout simplement en alignant tes feux. Il y a diverses façons d'aligner les feux et je ne veux pas te dire que celle que je peux te donner soit la meilleure et la seule façon d'aligner les feux. Tu peux pratiquer ta méditation, tu peux faire la méditation qui te viendra d'ici quelques années, peu importe. L'important est que tu arrives par un moyen simple à aligner les feux. De quelle façon est-ce que l'on aligne les feux ? On aligne les feux d'abord en évitant d'être perturbé ou d'être excité avant de se mettre en méditation. C'est pourquoi il faut tout autant soigner la préparation à la méditation que soigner la méditation elle-même. Autrement dit, on ne peut pas aller méditer sitôt que l'on vient de faire un gros repas ou sitôt que l'on vient d'avoir des échanges ou coléreux ou beaucoup trop joyeux avec une collectivité, dans la mesure où l'on ne sait pas, à l'intérieur de la colère ou à l'intérieur de la joie, garder un centre d'équilibre inébranlable. Il faut donc, avant de se préparer à la méditation, défricher l'aura. Exactement comme lorsque vous devez défricher un terrain avant d'y planter une graine. Défrichez votre aura. Vous-même, en observant les réactions de votre propre vie psychologique et affective, ou les remous qui ont lieu dans votre aura, vous saurez si vous devez vous préparer une heure avant la méditation, ou simplement 20 minutes, ou simplement 10 minutes avant. Si vous avez besoin de vous préparer une heure avant la méditation, essayez de vous préparer grâce à votre énergie mentale, c'est-à-dire utilisez le positif de la pensée. Et dites-vous, je vais méditer, tout va bien, tout est calme autour de moi, tout est calme en moi. Rien ne sera dérangé, rien ne me dérangera. Et petit à petit, essayez d'évacuer les sujets qui sont un souci. Si par exemple vous faites du souci pour votre fille ou votre fils qui serait mal marié et que cela puisse jaillir au milieu de la méditation, lorsque vous vous préparez à la méditation, passez un certain temps à dire « le mariage ira bien, ou bien tout simplement tout ira pour le mieux, ou bien s'il n'est pas du destin de mon fils de rester avec telle fille, prions pour que son destin s'accomplisse. Et ainsi de suite, une à une, vous allez passer devant les idées qui peuvent soulever dans votre rat des remous. Si une à une, vous rangez ces idées, donc vous rangez ces énergies, lorsque vous allez vous mettre en méditation, automatiquement vous allez vous trouver face à une aura complètement aplanie. Et vous n'aurez plus ces problèmes comme tant de débutants ou tant de disciples qui commencent sur le chemin éprouvent, c'est-à-dire au beau milieu de la méditation, se souvenir d'un souci, se souvenir d'un geste ou se souvenir de quelque chose que l'on a fait ou pas fait ou mal fait. Et l'on se trouve complètement perturbé par ces idées qui passent et repassent. Il est tout à fait normal que le mental, que la mémoire étale les souvenirs, étale des événements, étale des fantasmes. C'est une machine qui est faite pour produire. Donc la machine produit. Il faut simplement prendre le temps d'arrêter la production de la machine. Et petit à petit, par des pensées positives, donc par des ordres qui sont donnés mentalement, effacer ces idées et les ranger dans un endroit où elles sommeillent. Et vous verrez que de cette manière, non seulement votre méditation sera plus calme, mais vous ne serez plus du tout perturbé par des idées, par des soucis qui vont agiter votre méditation. De ce fait, vous pourrez passer plus vite à une méditation alchimique. Et de ce fait aussi, ayant appris à vos idées à se ranger, à se mettre en sommeil, à ne plus s'agiter, par là même, vous allez calmer dans votre être votre capacité à vous faire du souci. Et petit à petit, vous allez vous trouver comme devenant un individu capable de se détacher des soucis, de l'anxiété, de l'angoisse, de la projection. Une énergie ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'un certain nombre de sœurs jumelles. C'est pourquoi lorsque vous avez une idée qui s'éveille, des dizaines d'autres viennent vous perturber. Et si vous en calmez une, des dizaines d'autres aussi sont calmées. C'est pourquoi il est capital de penser, avant la méditation, à calmer les idées, à calmer le système nerveux. Une fois que vous vous sentez suffisamment prêt pour aller méditer, mettez-vous en méditation et là, faites une méditation active. Alignez tous vos feux, soit en imaginant une épée qui, par exemple, monterait depuis la base du corps, en traversant tout le corps et en allant finir sa pointe dans le chakra coronal. Et imaginez qu'à travers cette épée, une grande électricité circule qui irradie en même temps dans tout votre être, où vous pouvez aligner les différents feux par les respirations et respirer cycliquement par le bassin, exactement comme si des poumons étaient positionnés dans le bassin. Sentez le bassin se dilater avec la respiration, puis le bassin s'affaisser lorsque vous expirez. Puis passez ensuite à tout l'abdomen, de la même manière, en imaginant qu'il y a un immense poumon et que l'abdomen est capable de respirer, de se remplir d'air et d'énergie. Faites ainsi en tranche toutes les parties du corps. Et lorsque vous êtes arrivé au sommet de la tête et que vous respirez avec l'entier de la tête, il vous suffit ensuite, pour dynamiser l'entier de votre aura, de faire une dernière respiration totale avec votre corps en entier, en imaginant même que votre aura respire, que votre corps éthérique est en train de respirer. Car il est bon d'essayer de commencer à soupçonner le corps éthérique et de vivre un petit peu en ressentant le corps éthérique. On parle toujours du corps solide, on ne voit que le corps solide, on ne ressent que le corps solide, et il faudrait commencer un petit peu, puisque l'ère du Verseau approche, il faudrait commencer un petit peu à ressentir le corps éthérique, à le sentir au moins respirer, de façon à ce que vous puissiez reconnaître les énergies qui viennent vers vous et qui sortent de vous. Lorsque vous avez respiré de cette façon-là, par tous les endroits de votre corps, puis par tout votre corps en entier, vous êtes certain d'avoir parfaitement aligné les énergies et dilaté les divers endroits du corps et de l'aura pour recevoir une énergie. Il y a aussi un intérêt à cette dilatation, c'est que s'il y a dilatation, il n'y a donc pas de blocage. S'il n'y a pas de blocage, la méditation se fera beaucoup mieux avec toutes les énergies disponibles. Car il y a des méditations qui se trouvent être empêchées, troublées, avortées par des blocages d'énergie. C'est pourquoi il est bon de se préparer à méditer. Pour un individu qui a par exemple beaucoup travaillé au bureau et qui travaille donc énormément avec la tête, en penchant la tête, pour regarder le bureau. Ce genre d'individu aura tendance à bloquer les énergies au niveau de la nuque et sur le haut des épaules. S'il ne prend pas la peine de dilater les parties de son corps et les parties de son aura, comme je viens de le décrire, ou par une méthode analogue, lorsque cet individu va se mettre en méditation, toutes les énergies vont se trouver bloquées au niveau de la tête. Ce qui fait qu'en plus, que d'avoir un petit problème de musculation ou de nerfs au niveau de la nuque et des épaules, il aura ensuite un gros mal de tête parce que toutes les énergies de la méditation se seront précipitées dans la tête et y seront restées. C'est pourquoi, généralement, dans les anciennes écoles, il n'y avait pas de méditation sans d'abord une certaine récréation du corps, soit par des mouvements de gymnastique, soit par des mouvements de danse, soit par des massages ou des élongations. Ce qui ne veut pas dire que méditer devient une affaire très compliquée et qu'il va falloir se préparer des jours à l'avance, passer chez le masseur, passer chez quelqu'un qui va ensuite nous donner des idées positives pour calmer l'agitation mentale. Il ne faut pas croire que d'un seul coup, la méditation devient quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très simple, mais quelque chose qui a certains fonctionnements. Et ce certain fonctionnement réclame du respect. Sinon, il ne peut pas y avoir de méditation. Donc, il vaut peut-être mieux méditer un peu moins, mais réserver du temps pour la préparation. De ce fait, même si vous méditez un peu moins que ce que vous avez prévu, avec le temps, votre méditation sera bien meilleure. Et comparativement, vous serez en fait beaucoup plus médité que si vous seriez allé n'importe comment dans la méditation, en vous forçant à rester de longues heures en lotus ou en je ne sais trop quoi. L'important est la qualité, pas la quantité de méditation, la qualité. En ce qui concerne la méditation, je voudrais dire que il est bon de méditer, c'est certain. Alchimiquement, l'acte de la méditation est très important. Cependant, il est faux de croire que toute l'évolution va se satelliser autour de la méditation. Si un individu qui médite ne pense pas en même temps à calmer ses émotions en lui-même ou à dépasser ses craintes, ses timidités, ses maladresses, ses imperfections, ou s'il ne prend pas soin de contempler bien en face son karma et de le régler et de donner à chaque homme la justice et l'amour qu'il faut, cet individu pourra méditer pendant des siècles, il ne se passera rien de spirituel. Donc, pour être un homme debout et un homme qui marche vers Dieu et vers sa liberté, il ne suffit pas simplement d'avoir les grandes oreilles ouvertes et de se dire « Maintenant que j'ai bien entendu, je vais appliquer la méthode. » Car il n'y a pas de méthode. On ne peut pas aller vers Dieu par la méditation. C'est faux, c'est complètement faux, c'est archi-faux. La méditation n'a jamais mené l'homme à Dieu. Il n'y a que l'ignorant qui croit que la méditation mène à Dieu. La méditation mène là où elle mène. Tout simplement, en satellite, autour d'un objet de contemplation. Mais Dieu est autre chose qu'un objet à contempler. Dieu est votre propre nature. Donc, il ne suffit pas de méditer, il faut aussi devenir Dieu. Il ne faut pas simplement se satelliser autour de l'objet divin et méditer sur l'objet divin, méditer sur le mantra ou méditer sur la forme ou la couleur de Dieu ou le son de Dieu. Ceci, c'est simplement satelliser la conscience autour d'un objet. Mais l'objet, c'est vous. L'objet divin, c'est vous. Donc, vous n'avez pas à satelliser votre conscience autour de vous-même. Vous devez, au contraire, aller vers vous-même et devenir ce vous-même. Automatiquement, donc, la méditation n'est plus la méthode ultime, n'est pas la seule voie d'évolution, la seule façon d'aller vers de plus hauts plans de conscience. La méditation est un travail plus particulier d'introspection des énergies et d'élévation des énergies. Mais en attendant, tout le reste de la vie doit être aussi une grande méditation. La conscience n'est pas en méditation quand vous daignez méditer et puis ensuite, eh bien, on la laisse faire ce qu'elle veut. On la laisse spéculer mentalement, on la laisse désirer des plats en sauce, on la laisse désirer voir des films, voir des amis, on la laisse désirer le fort de la vie. Si l'on veut évoluer, il faut prendre la vie entière comme une longue et profonde méditation. C'est pourquoi immanquablement, au cours de votre vie, au cours de vos jours, vous allez devoir apprendre à vous détacher des objets qui attachent votre conscience dans une contemplation un peu trop statique. C'est ce que l'on appelle se défaire de ses défauts, par exemple. Ceci, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le redire un peu pour vous ce soir. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre que tout au long de la journée, l'individu doit soigner sa conscience, soigner le type d'investissement qu'il fait des énergies de sa conscience vis-à-vis de certains objets? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas simplement 10 minutes de méditation réservées à Dieu et puis ensuite le reste où l'individu est comme il est. La conscience est exactement la même pendant les 10 minutes où l'on va méditer ou pendant le reste des longues heures où l'on va être soi-même. La conscience est toujours en méditation. Ce qui fait que lorsque vous êtes par exemple en train de lire votre journal, il faut que vous compreniez que votre conscience est en méditation sur la lecture du journal. Lorsque vous êtes en train de regarder un arbre, votre conscience est en méditation sur l'image de l'arbre. Lorsque vous êtes en grande colère, votre conscience est en méditation sur votre colère. Tout est contemplation pour la conscience. Que ce soit l'objet de la colère, que ce soit le journal, que ce soit une voiture qui passe, que ce soit l'instant où vous vivez par exemple un lien affectif ou une relation sexuelle, il s'agit tout autant d'une méditation pour la conscience. La conscience, donc, est comme une entité, un royaume, qui s'investit dans l'objet que vous regardez, dans l'objet que vous ressentez, que vous éprouvez. Ce qui fait que pour la conscience, lire un journal, c'est méditer sur le journal. Comme le journal n'est pas un objet divin, pour la conscience, lire un journal n'apportera aucune illumination spirituelle. Donc, pour celui qui veut un petit peu, non seulement dynamiser sa vie, mais dynamiser sa spiritualité, dynamiser sa conscience, il va lui falloir comprendre qu'à tout instant, le regard qu'il va poser sur les choses est dit sur mon image, parce qu'elle contemple mon image. Si donc je soustrais mon image et que j'y mets l'image de Dieu, ma conscience va méditer sur l'image de Dieu. Et comme cette image de Dieu correspond à la nature profonde de ma conscience, il va se passer une prise de reconnaissance. Et à ce moment-là, la conscience, qui pendant un certain temps s'était habituée à regarder des choses qui ne sont pas divines, et qu'elle avait...